enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Une fois que nous avons posé dans nos vies le fondement de notre rencontre personnelle avec Christ, comment pouvons-nous ensuite bâtir sur ce fondement ? Je laisse la parole à Derek Prince, qui va nous guider dans cette construction.
Maintenant, il existe une autre parabole de Jésus dans Luc 6, qui est très semblable, mais il y a un nouvel élément important. Je vais m'arrêter sur le chapitre 6 de Luc pendant un moment, du verset 46 au verset 49. À nouveau, c'est Jésus qui parle. Et il dit,
«
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est là un point important. Il est vain d'appeler Jésus Seigneur si vous ne lui obéissez pas, car le véritable titre de Seigneur désigne quelqu'un qui doit être obéi. Jésus met en garde contre les confessions orales qui n'affectent pas votre manière de vivre. Puis il poursuit avec cette parabole. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le fondement, le pétra. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ici, il y a un important détail en plus dans Luc qui ne se trouve pas dans Matthieu. Je me demande combien d'entre vous l'ont remarqué. Il est dit que l'homme qui voulait atteindre le roc a dû creuser profondément. Il a dû enlever beaucoup de choses avant de pouvoir construire sur le roc. Et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous. Peut-être pas pour nous tous, mais beaucoup de ceux d'entre nous qui ont grandi dans une culture chrétienne de non seulement doivent se débarrasser de beaucoup de choses en route avant d'atteindre le roc. D'autres, qui ont grandi dans un milieu non chrétien, auront aussi à éliminer des choses, mais différentes. J'aimerais vous suggérer 5 choses qu'il nous faut ôter de notre chemin. La première, ce sont les traditions. En réalité, toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Certaines traditions sont bonnes. L'idée n'est pas de rejeter toutes les traditions, mais Jésus dit aux hommes de son temps, « Par vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Vous croyez à des traditions et agissez selon ces traditions, bien qu'elles ne soient pas en conformité avec les Écritures. » Et je dois dire, selon mes observations, que Jésus aurait pu dire exactement les mêmes choses aux mêmes Juifs à notre époque. Par vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Mais ne regardons pas seulement aux Juifs, car cela est vrai de beaucoup d'autres. Issus de milieux chrétiens, nous avons hérité de traditions, de façons d'agir, de choses que nous faisons, de paroles que nous prononçons, qui ne s'accordent pas nécessairement avec les Écritures. C'est pourquoi nous devons faire très attention et vérifier ces choses. Je me garderai d'en citer quelques-unes spécialement, mais il y en a beaucoup dont j'en pourrais parler. Ensuite, la deuxième chose dont nous devons nous débarrasser, ce sont les préjugés. Il n'y a personne ici présent qui n'ait eu un moment de sa vie des préjugés. Peut-être vous en êtes-vous débarrassé, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de préjugés. Il y a les préjugés raciaux. Malheureusement, le monde est rempli de préjugés raciaux de nos jours. Nous savons que dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où se sont produits de merveilleux changements, soit dit en passant, les préjugés raciaux ont empêché certaines personnes de faire partie de l'Église. Quelle idée épouvantable! Mais ce n'est pas le seul endroit où l'on trouve des préjugés raciaux. Les États-Unis d'Amérique ont été pleins de préjugés racistes. Et c'est vrai encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Je suis d'origine anglaise. Laissez-moi vous dire que les Anglais ont également leurs préjugés. J'ai grandi avec beaucoup de ces préjugés. J'ai dû beaucoup creuser pour me débarrasser d'eux. Le milieu d'où est issu ma propre famille vient d'Inde. Tous mes ancêtres ont servi les forces britanniques en Inde. À 12 ans, je me souviens avoir demandé innocemment, lors d'un déjeuner, « Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas inviter un Indien à déjeuner ?» Ma famille a eu une réaction horrifiée. Je me suis demandé pour quelle raison. Et bien plus tard, j'ai réalisé que c'était un préjugé. Croyez-moi, je vois beaucoup de personnes différentes, issues de contextes raciaux différents, mais très peu d'entre vous sont dégagés de tout préjugé raciste. Et puis il y a aussi les préjugés dénominationnels. La plupart d'entre nous réagissent de façon un peu négative face à certaines dénominations. Ma première épouse, qui est maintenant avec le Seigneur, était danoise. Elle avait grandi au sein de l'église luthérienne danoise. Elle a fait quelque chose qui semblait effroyable à leurs yeux. Elle s'était fait baptiser en tant que croyante, ce qui se dit en danois « Jinderker », une baptisée pour la deuxième fois. Dans son cas, du fait qu'elle était professeure dans l'éducation nationale danoise, la question de savoir si elle pouvait être maintenue à son poste est remontée jusqu'au Parlement. Et je dois avouer que ma femme en a gardé une rage définitive contre l'église luthérienne jusqu'à la fin de ses jours. Je ne lui donne pas raison. Je pense que c'était une faiblesse chez elle. Mais j'ai appris moi-même que quand j'entends parler de personnes appartenant à certaines dominations, je développe une attitude négative, sans même les avoir rencontrés. Bon, ils vont être comme ci et comme ça, et c'est précisément là qu'ils se trompent. Et ainsi de suite. L'expérience m'a enseigné que dans la mesure du possible, il ne faut jamais juger les gens tant que vous ne les avez pas rencontrés. J'ai rencontré des gens appartenant à une mauvaise dénomination qui se sont révélés être les personnes les plus droites que j'ai jamais rencontrées. Et d'autres appartenant à la bonne dénomination qui était loin d'être bien. Alors vraiment, de grâce, ne laissez pas le champ libre aux préjugés dénominationnels. Et enfin, il y a les préjugés sociaux. Encore une fois, je suis l'exemple même de quelqu'un qui a été élevé avec des préjugés sociaux. Je n'étais même pas conscient que j'avais des préjugés, mais j'ai été éduqué en Grande-Bretagne, à Eton, et ensuite à l'université de Cambridge. J'ignorais absolument tout de la façon dont le reste du monde vivait. Ensuite, j'ai été immergé dans l'armée britannique et je me suis retrouvé avec toutes sortes de gens que je n'avais jamais côtoyés auparavant. J'ai commencé à réaliser à quel point ma connaissance de mes propres compatriotes britanniques était limitée. Je rends grâce à Dieu pour cette expérience qui a duré 5 ans et demi dans l'armée britannique, mais cela m'a purifié de bien des préjugés sociaux. Étant issu d'une famille d'officiers, j'étais accoutumé à me situer à ce niveau. Mais à partir du jour où je n'étais plus à ce niveau, j'ai appris quelque chose. Lorsque vous voyez les gens à partir du même niveau, vous les voyez sous un seul angle. Mais quand vous les voyez par en dessous, ils sont différents. J'ai toujours essayé de dire depuis lors, « Seigneur, comment les gens me perçoivent-ils quand ils me regardent par en dessous ?» Ainsi, il existe différents types de préjugés. Il y a les préjugés personnels. Certaines personnes n'aiment pas les gens qui parlent fort. Certains n'aiment pas les gens qui sont roux. Il y a toutes sortes de préjugés personnels stupides que la plupart d'entre nous ont. J'ai un a priori contre les personnes qui mâchent des pommes. Je lutte vraiment contre cela. Mais c'est encore là, tout au fond, uniquement parce que je n'aime pas ce bruit. Au-delà de ça, il y a les idées préconçues, des gens qui ont une idée complètement fausse de ce qui est Jésus. Un Jésus gentil, doux, mièvre, qui arrive pour le réveillon de Noël. Ce n'est pas le vrai Jésus. C'était quelqu'un de très différent, très choquant, toujours prêt à éliminer nos préjugés et nos idées préconçues. Il y a bien d'autres façons pour nous d'avoir des idées préconçues. Des idées préconçues sur ce qu'un chrétien devait être. Tout en grandissant dans le contexte familial que j'évoquais tout à l'heure, je me disais, « Eh bien, si je devais devenir chrétien, ce serait la misère jusqu'à la fin de ma vie. » Comme Pat Boone, je me disais, « Le ciel ne vaut pas 70 ans de misère sur la terre. » Et du coup, j'éliminais toute éventualité de devenir chrétien un jour, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Ensuite, il y a quelque chose d'autre, de très très dangereux, et c'est l'incrédulité. Parfois, alors que je m'apprête à prêcher, je commence par amener toutes les personnes présentes, moi y compris, à renoncer à l'incrédulité. Car beaucoup d'entre nous sont encore sous l'emprise de l'incrédulité dans de nombreux domaines. Nos esprits ne sont pas encore réellement ouverts à la foi. Et enfin, pour finir, et je pense que c'est là le point le plus important, il y a la rébellion. Vous pourriez dire, « Eh bien, frère Prince, je ne suis pas un rebelle. » Oh, que si, vous l'êtes. Et si vous ne l'avez pas découvert, vous continuerez à l'être. Vous savez, je ne vais pas m'appesantir sur l'aspect théologique de cette question, mais tous les descendants d'Adam sont des rebelles à l'intérieur. Nous devons identifier ce rebelle et nous occuper de lui. Dieu n'a qu'un seul remède pour le rebelle. Savez-vous ce que c'est ? L'exécution capitale, rien d'autre. Il ne l'envoie pas à l'Église, il ne lui apprend pas la règle d'or, il ne lui fait pas mémoriser les Écritures, il le met à mort. Mais la grâce de Dieu, c'est que l'exécution capitale a eu lieu il y a 2000 ans, quand Jésus est mort à la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il faut que nous allions au point où nous identifions ce rebelle à l'intérieur de nous et que nous nous soumettions volontairement à l'exécution. Maintenant, j'en viens à la Bible, parce que c'est aussi important que le reste dans la vie chrétienne. Quelle est votre attitude face à la Bible? Votre attitude est-elle la même que celle de Jésus? Je voudrais juste prendre un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. Je ne vais pas expliquer le contexte qui précède, car ce serait un peu long. Jésus dit, « Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, c'est un verset très significatif, car ici, Jésus utilise les deux principaux titres de la Bible, la parole de Dieu et l'Écriture. Quand il est dit que la Bible est la parole de Dieu, cela veut dire qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Elle a peut-être été transmise par des canaux humains, mais elle vient de Dieu. L'expression « l'écriture » est une expression qui évoque une limite. Elle signifie « qui a été couché par écrit ». Dieu a dit beaucoup de choses qui n'ont pas été couchées par écrit. Mais selon la souveraineté de Dieu, la Bible contient ces choses que Dieu déclare devoir être couchées par écrit. C'est cela l'Écriture. Cela signifie « qui est couché par écrit ». Et à ce sujet, Jésus fait une déclaration simple et fondamentale. L'Écriture ne peut être anéantie. Vous pouvez argumenter autant que vous voulez sur l'inspiration des Écritures ou sur l'autorité de la Bible, mais Jésus a été clair là-dessus. Elle ne peut être anéantie. C'est d'une autorité absolue. Elle sera totalement accomplie. Tout en elle sera réalisé dans les moindres détails. Vous pouvez vous opposer à ce point de vue, vous pouvez nier cela, mais vous ne pouvez pas l'anéantir. En fait, si vous le niez, au bout du compte, c'est elle qui vous anéantira. L'Écriture ne peut être anéantie. Maintenant, tournez-vous et regardez la personne à côté de vous et dites-lui en regardant droit dans les yeux. L'Écriture ne peut être anéantie. Tournez-vous vers une autre personne et dites, l'Écriture ne peut être anéanti. Très bien. Maintenant, voilà une chose établie. Voyez-vous, il existe un niveau de critique élevé qui soumet les Écritures à toutes sortes d'idées délirantes, ridicules, qui finissent par faire de la Bible un livre vidé de son efficacité. S'il y a bien une chose que le diable veut faire dans votre vie et dans la mienne, c'est bien de miner notre foi dans l'autorité et l'acuité de la Bible. Mais si nous sommes comme Jésus, nous disons simplement que la Bible ne peut être anéantie. Tu m'entends, Satan? L'Écriture ne peut être anéantie. Très bien. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la Bible n'est pas seule à être la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Ceci est révélé dans l'Évangile de Jean à deux endroits. Dans Jean 1:1, un verset que nous connaissons bien, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ceci fait référence à Jésus. Il était la parole, il est la parole, Puis, dans Jean 1, 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ainsi, lorsque Jésus est né, ce que nous commémorons avec la fête de Noël, bien que ce ne soit pas réellement la bonne période, la parole a été faite chair. Mais il était toujours la parole. Éternellement, il est la parole avec Dieu. Et lorsqu'il reviendra, savez-vous comment il reviendra? Savez-vous quel sera son nom? Laissez-moi vous le dire. Apocalypse, chapitre 19. C'est vraiment remarquable. Dans la mesure où lorsqu'il est venu la première fois, il était la parole. Lorsqu'il reviendra la seconde fois, il sera la parole. C'est une image de Jésus arrivant des cieux de gloire pour établir son royaume sur la terre. Apocalypse 19, versets 11, 12 et 13. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ainsi, il était depuis toujours la parole. Il est encore, et il sera toujours la parole. Et ceci met en lumière quelque chose de très important. Il y a un accord total entre Jésus et la Bible. Votre attitude envers l'un dénote votre attitude envers l'autre. Vous ne pouvez pas croire en Jésus et ne pas croire la Bible. Avez-vous bien intégré ce fait? Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. La Bible est la parole scripturale par écrit. Votre attitude envers l'un doit être la même que votre attitude envers l'autre. Il y a un accord total entre les deux. Et maintenant, que j'arrive au bout de ce message, je veux souligner cinq principes vitaux sur la parole de Dieu et votre relation avec elle, qui sont contenus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Juste trois versets. Jésus, d'une certaine façon, prend congé de ses disciples. Il les avertit qu'il va bientôt les quitter et qu'ils seront laissés seuls pendant un moment. C'est un moment très traumatisant pour les disciples. Ils sont bouleversés par cette révélation. Mais au milieu, Jésus donne une merveilleuse révélation de ce que la Bible devrait être pour nous, croyants. Il dit, dans Jean 14, 19, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Ainsi, Jésus fait ici une distinction entre le monde, il s'agit de ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, et ses propres disciples. Il dit, « Le monde ne me verra pas, mais les disciples me verront. » Et alors, Judas, pas l'Iscariote, mais l'autre, lui posa cette question très pertinente au verset 22. Judas lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Il dit cela parce que Jésus avait dit, « Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. » Sa question était, « Comment te manifesteras-tu toi-même à nous et non au monde ?» La réponse que donne Jésus à ce moment est justement remplie d'une vérité capitale. Jésus dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je veux souligner cinq points capitaux dans la réponse de Jésus. Tout d'abord, Jésus dit qu'il se révélerait lui-même à ses disciples. Pas au monde. Quelle est la marque distinctive qui sépare les disciples du monde? La réponse, c'est garder la parole de Dieu. Les vrais disciples gardent la parole de Jésus. Et ils ne se démarquent pas par le label de leur dénomination. Ils se démarquent par leur relation à la parole. Ce qui fait de vous ou au contraire vous empêche d'être un vrai disciple. C'est votre relation avec la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu fait la différence entre les disciples et le monde. Et dans cette congrégation, ici, ce matin, chacun d'entre nous se trouve dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Si nous sommes des disciples, nous gardons la parole de Dieu. Si nous ne gardons pas la parole, nous appartenons au monde qui n'est pas sous la seigneurie de Jésus. Et puis, la deuxième vérité est dans ce que Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ainsi, garder la parole de Dieu est le test suprême de l'amour des disciples pour Dieu. L'amour est ce qui motive l'obéissance. Il est très important de comprendre, en tant que croyants, nous ne sommes pas motivés par la peur, nous sommes motivés par l'amour. D'une certaine manière, la loi utilisait comme motivation la peur. Si vous faites cela, vous serez puni. Mais cela ne marche pas. J'ai élevé un grand nombre d'enfants. Certains d'entre vous n'arriveraient pas à en croire le nombre, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai découvert que tant qu'ils sont sous votre contrôle parental, vous pouvez utiliser la peur. Mais une fois qu'ils vous auront quitté, s'ils ont été motivés par la peur, ils changeront. La seule motivation qui les gardera loyaux et fidèles est l'amour. Dieu et Jésus étaient suffisamment sages pour ne pas bâtir sur la peur, mais sur l'amour. C'est pourquoi garder la parole de Dieu est le test suprême de l'amour des disciples pour Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'amour est le moteur de l'obéissance. Et à ce moment-là, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Voilà un autre fait merveilleux. Garder la parole de Dieu est ce qui amène Dieu le Père à nous aimer d'un amour particulier. En réalité, Dieu aime le monde entier dans un certain sens, mais il a une intensité et une sorte d'amour très différente pour les vrais disciples de Jésus, ceux qui gardent sa parole. Et alors, nous avions la question posée par Judas. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et la réponse de Jésus a été la suivante. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, comment Jésus-Christ se manifeste-t-il à nous? Par la parole. C'est au travers la fidélité à la parole que nous arrivons à mieux connaître Jésus. Nous pouvons avoir peut-être de merveilleuses expériences spirituelles, nous pouvons être amenés au troisième ciel, ou quoi que ce soit d'autre, mais ceci n'arrive pas à grand monde, et ce n'est pas le chemin fondamental par lequel Dieu se révèle, et Jésus se révèle. Cela ne se fait qu'en gardant la parole de Dieu. Et enfin, pour finir, et ceci est une déclaration incroyable, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'y a que très peu de passages dans la Bible où le pronom pluriel est utilisé pour Dieu. Mais en voici un. Jésus dit, nous, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est une déclaration à couper le souffle, une révélation étourdissante. Que Dieu le Père et Dieu le Fils veuillent venir habiter avec nous. Ils désirent faire de nous leur demeure personnelle. Mais comment cela peut-il se faire? Au travers de la parole. Si nous ne sommes pas des amoureux de la parole, si nous n'obéissons pas à la parole, Dieu n'habitera pas avec nous. Alors laissez-moi vous dire, alors que se clôture cette matinée, et ceci est une pensée très solennelle, vous ne pouvez aimer Dieu plus que vous n'aimez sa parole. C'est pourquoi, si vous voulez savoir à quel point vous aimez réellement Dieu, quelle place a Dieu dans votre vie, vous pouvez le savoir. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez spéculer. Demandez-vous juste à quel point est-ce que j'aime la Bible. Quelle place la Bible a-t-elle dans ma vie? Parce que mon amour pour Dieu se mesure à la place que je donne à Dieu dans ma vie. Laissez-moi juste résumer ces cinq déclarations au sujet de la Bible, car elles sont capitales. Voyez-vous, tellement de chrétiens sont dans une espèce de flou. Ils ne savent pas vraiment ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Ils souhaitent et ils espèrent, mais ils ne sont pas vraiment sûrs. La raison est qu'ils n'ont pas donné à la parole de Dieu sa juste place dans leur vie. Résumons ces cinq points, puis nous terminerons. Tout d'abord, l'observation de la parole de Dieu distingue les vrais disciples des gens du monde. Deuxièmement, l'observation de la parole de Dieu est le test suprême de l'amour du disciple pour Dieu. L'amour est notre moteur pour l'obéissance et non la peur. Troisièmement, l'observation de la parole de Dieu est la cause la plus importante de l'amour de Dieu pour le disciple. Dieu aime les disciples d'une façon particulière. Il aime le monde entier, mais il a un amour spécial pour les disciples. Mais ceux qu'il aime en tant que disciples sont ceux qui gardent la parole de Dieu. Si vous voulez être spécialement cher aux yeux de Dieu, alors gardez sa parole. Quatrièmement, à travers la parole de Dieu, si nous la gardons en lui obéissant, Christ manifeste lui-même à nous. La question était, d'où viens-tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est ainsi que je me manifesterai à vous. Et enfin, pour terminer, au travers de la parole, le Père et le Fils viendront à nous pour faire leur demeure en nous. N'est-ce pas une pensée incroyable? Cela me laisse sans voix. Dieu le Père et Dieu le Fils veulent habiter avec nous, mais ils ne le feront que si nous gardons la parole de Dieu. J'aimerais terminer en priant pour nous tous. Père céleste, nous te remercions pour ta parole, la parole de Dieu, la Bible. Cette parole sûre, pleine d'autorité, infaillible, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je veux prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente et pour tous ceux qui seront un jour confrontés à ce message, d'une manière ou d'une autre, afin que tu fasses de nous des amoureux de ta parole. Que tu nous rendes capables, par ta grâce, de mettre ta parole à sa vraie place dans nos vies, afin que nous soyons de véritables disciples du Seigneur Jésus. Je te prie en son nom. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.